8h17, l'interview politique d'Europe 1 à présent. François Geffrier, vous recevez le ministre délégué au transport.
Bonjour Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour à vous.
2024, voire 2027, Aéroports de Paris ne prévoit pas de retour à la normale du trafic aérien avant cette fourchette de temps. Vous aviez prévu ce scénario catastrophe ?
En tout cas, on regarde précisément l'évolution du trafic. Aujourd'hui, on a environ 40% du trafic au global, un peu plus sur les vols métropolitains, un peu moins sur le long courrier. Donc c'est un trafic qui reprend très progressivement. On aura un premier juge de paix en septembre, avec le retour ou non de la clientèle à faire. C'est vrai du reste sur le TGV. Et ça nous permettra de voir un peu la dynamique de fin d'année, et puis de voir la dynamique pour l'année prochaine. Et en fonction de cela, effectivement, à la fois les projets d'aménagement des aéroports, l'offre des compagnies aériennes, pourra amener à être ajusté, mais nous devons rester, je crois, en la matière extrêmement lucide et assez souple devant les incertitudes qui sont devant nous.
Mais il y a déjà eu des annonces de milliers de suppressions d'emplois dans le secteur, Airbus, Air France. Que fait-on aujourd'hui quand on est personnel au sol, agent aéroportuaire, bagagiste, ouvrier ou cadre de l'aéronautique? On attend que ça se passe et pendant 7 ans, on vient se faire réembaucher en 2027.
Je crois que vous savez, la différence, j'étais hier avec des syndicats justement de l'aérien, on parlait de ce qu'a fait l'État. D'abord, l'État a fait énormément pour soutenir tous les salariés. Aujourd'hui, au travers des dispositifs longue durée, activité partielle longue durée, a fait évidemment ce qu'il fallait pour soutenir en trésorerie les principales compagnies, la principale compagnie aérienne Air France 7 milliards et les autres compagnies par différents dispositifs. S'est mis en capacité d'investir pour l'industrie aéronautique et se donner des perspectives d'avenir à 5 à 7 ans, 5, 7 ans, 10 ans, de manière aussi à créer les emplois de demain. Je crois que l'État a été dans ce rôle à la fois d'État brancardier, en quelque sorte, et puis d'État stratège. Aujourd'hui, il faut accompagner cette reprise dans des bonnes conditions de sécurité sanitaire. Il faut donner confiance aux passagers. On a encore fait le parcours passager avec Jean Castex il y a 2 jours à Roissy. Et je crois que quiconque voyage aujourd'hui, tant dans l'avion que dans le train, peut se dire que les choses sont mises en œuvre par les exploitants aéroportuaires, par les opérateurs de transport pour que les déplacements se passent au mieux. Mais il y a cette part d'incertitude que nous devons regarder évidemment lucidement.
Incertitude jusqu'en 2027, hein, je le répète, parce que c'est vertigineux, ça justifie quelque part finalement la lourdeur du plan de suppression d'emplois chez Airbus que le gouvernement souhaitait réduire.
Non, mais d'abord, nous avons discuté, échangé avec Airbus, nous avons d'ores et déjà réduit l'ampleur des projets de suppression d'emplois, puisque vous savez que avec l'argent que l'État investit dans l'avion du futur, avion hybride à horizon 2027, avion à hydrogène à horizon 2033, c'est 1500 emplois dans le groupe Airbus en France qui sont stabilisés, sécurisés. Et nous allons continuer à travailler avec Airbus. Après, je pense que sincèrement, 2024, 27, 23, personne ne sait aujourd'hui dire ce que sera le trafic dans 2 ans, dans 3 ans. Personne. Et donc, je prends ces chiffres avec aussi beaucoup.
C'est des perspectives qui sont communiquées quand même par Aéroports de Paris qui opère des dizaines d'aéroports dans le monde et notamment les principaux français. On n'a peut-être pas besoin, dans ces conditions, de construire un nouveau terminal, le T4 à Roissy, qui d'ailleurs, ça tombe bien, est très critiqué.
Le projet du T4 devra être vu en profondeur. C'est une réalité. J'en ai parlé avec Augustin Romanet, le patron d'ADP, à plusieurs reprises.
Mais on va quand même le faire.
Devra être vu en profondeur. Vous voyez, nous sommes en train d'investir massivement pour l'avion à hydrogène. Je pense que nous devrons nous doter de capacités aéroportuaires pour accueillir l'avion à hydrogène. Donc, revu en profondeur, ça veut dire qu'effectivement...
Mais ça, on peut le faire sur les installations existantes.
Non, mais ça veut dire que le projet qui prévoyait l'accueil à horizon 2030 de 40 millions de passagers en plus... probablement aujourd'hui ne se justifie plus tel qu'il était prévu. Par contre, il y aura besoin d'aménagement, il y aura besoin d'accueillir de nouveaux types de trafic, il y aura besoin de continuer à pouvoir construire sobrement en fonction des besoins qui seront alors ceux de la plateforme. Et ça, nous allons nous mettre en capacité, aux côtés d'ADP, de le réaliser.
Autre question sur ce secteur, Jean-Baptiste Djebbari, vous êtes ministre, vous avez été pilote, vous avez été contrôleur aérien dans une vie antérieure. Les aiguilleurs du ciel dans les tours de contrôle, est-ce qu'on a besoin de leur verser en ce moment une prime de suractivité, comme l'a révélé Le Parisien ?
Alors d'abord, c'est un raccourci. Cette prime, elle a été négociée en 2016. Et moi, j'ai été extrêmement clair avec les contrôleurs aériens.
Elle vient
avec
d'être reconduite jusqu'en 2023.
Civile. Ces primes correspondront à des vacations effectuées. Ces primes correspondront à du travail réel effectué pendant la période qui s'ouvre. Et donc, il n'y a pas de, si vous voulez, de
Mais il y en a eu sur les mois du confinement, là.
Il y a eu 95% du trafic qui s'est arrêté. Et donc, 5% du trafic réel à Roissy, par exemple, quand les aéroports n'ont pas fermé, comme ça a été le cas d'Orly. Donc, il y a eu un moment d'ajustement, c'est une chose. En revanche, à partir du mois de juin, j'ai demandé à la direction de l'aviation civile de faire en sorte de mettre en œuvre le fait que toutes vacations effectuées correspondent, enfin toutes les primes en tout cas versées correspondent à du temps de travail effectif, et c'est normal. Et nous allons par ailleurs engager une réforme de l'aviation civile pour qu'elle soit en capacité d'être au plus près des évolutions contemporaines du secteur.
Un conseil de défense écologique hier, un déplacement avec le Premier ministre, la France qui veut relancer le fret ferroviaire. Tous les écologistes dans l'âme s'en réjouissent, mais qu'est-ce qui fait que la décision prise par le gouvernement il y a un an d'en finir avec la ligne Perpignan-Rungis, cette décision n'est plus valable aujourd'hui?
Mais d'abord, c'est une interprétation qui n'est pas la réalité, puisque nous n'avons pas décidé d'en finir avec la ligne Perpignan-Rungis. Il se trouve que la ligne Perpignan-Rungis n'avait plus de clients. Il n'y avait plus de chargeurs qui mettaient des marchandises dans les trains. Et en fait, ça participe d'un mouvement beaucoup plus global et ancien qui consiste... pour le fret ferroviaire, à avoir été le parent pauvre du secteur depuis maintenant plus de 20 ans. Parce que le réseau est vétuste, parce qu'on a des difficultés à trouver des horaires pour faire circuler des trains, parce que la concurrence de la route fait qu'aujourd'hui, il coûte 30% moins cher de faire circuler un conteneur par la route plutôt que par le train.
Et là, ça va devenir viable et concurrentiel?
Nous allons faire deux choses, c'est ce que nous avons annoncé hier avec le Premier ministre. D'abord, nous allons soutenir les opérateurs. C'est l'annulation de 6 mois de péage ferroviaire et c'est beaucoup d'argent pour les opérateurs.
Ça, c'est temporaire, donc ce ne sera pas forcément rentable
ensuite. C'est temporaire cette année, mais c'est durable. C'est cette année et c'est reconduit l'année prochaine. C'est le lancement de nouvelles autoroutes ferroviaires en lien avec des partenaires privés. Je pense notamment à Cherbourg-Bayonne, en lien avec Brittany Ferries et à d'autres. Évidemment, la ligne Perpignan-Rungis que j'ai proposé au Premier ministre de prolonger vers le sud à Barcelone, vers le nord à Anvers et Dunkerque. Et puis, nous allons faire en sorte d'investir beaucoup dans les infrastructures. Il y a des sujets finalement assez prosaïques. Et là, j'ai des tunnels, faire en sorte que nous ayons du meilleur matériel roulant, avoir des centres de triage qui permettent de désaturer, bref, un certain nombre de points. Et ça, ce sera fait à la fois au niveau national, le plan de relance français que nous allons proposer en septembre, et au niveau européen, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les Allemands ont les mêmes sujets que nous sur le fret ferroviaire et que nous avons une volonté commune d'avancer.
On l'entendait dans le journal de 8 heures, la SNCF a 4 milliards d'euros de manque à gagner du fait de la crise. Est-ce que l'État va verser ces 4 milliards comme il a apporté 15 milliards à l'aéronautique, 8 milliards à l'automobile?
D'abord, on ne parle pas tout à fait de la même chose.
Il y a des prêts, il y a du manque à gagner, c'est des choses différentes.
Il faut quand même préciser des choses. J'ai eu l'occasion encore hier d'échanger avec Jean Castex et Jean-Pierre Farandou, ou le patron de la SNCF, pendant une petite demi-heure après cette séquence du fret ferroviaire. Et je l'ai déjà dit, mais l'État sera aux côtés de la SNCF dans cette crise qui est inédite et qui fait suite à la grève qui avait coûté 1 milliard d'euros à la SNCF. Il y a des surcoûts qui n'étaient pas prévus. Donc l'État sera aux côtés de la SNCF. L'État d'ailleurs a été aux côtés de la SNCF depuis 2017, reprise, vous le savez, de 35 milliards de dettes. On a eu 110 000 cheminots qui ont été mis au chômage partiel pendant cette phase aiguë de la crise. Donc l'État, depuis le début de cette mandature d'Emmanuel Macron, est aux côtés de la SNCF et nous continuerons à avoir beaucoup d'ambition sur le ferroviaire. Ça s'est traduit hier dans le fret, ça se traduira demain sur les trains de nuit. Et puis vous savez que nous avons un plan de sauvegarde des 9000 km de petites lignes ferroviaires que nous avons engagé en février et que nous entendons bien continuer.
La sécurité, c'est devenu le sujet central de quasiment tous les déplacements du gouvernement, de l'exécutif en général, avec encore une visite nocturne hier soir d'Emmanuel Macron avec des policiers. Oui. Le ministre de l'Intérieur assurait il y a quelques jours que des mesures pour les chauffeurs de bus dans toute la France allaient être prises. Vous en savez plus?
Oui, je me suis rendu à Bayonne suite à cet assassinat d'un chauffeur du centre local de bus. Gérald Darmanin s'y est rendu d'ailleurs quelques jours après. Il y a des mesures de court terme tout de suite qui peuvent être prises et qui vont être mise en œuvre, c'est des mesures autour de la sécurité privée pour sécuriser les chauffeurs qui sont dans un grand état d'anxiété. Il y a évidemment une meilleure coordination avec les services de police localement, des meilleurs systèmes d'alerte. Et puis je crois que tout ce qu'a annoncé Jean Castex sur une meilleure coordination entre la police municipale, la police nationale, notamment dans les grandes villes qui ont souvent des régies ou des réseaux de transport développés, ce sera évidemment important pour sécuriser la communauté des chauffeurs de bus, des chauffeurs de train qui sont, comme beaucoup d'autres professions, attaqués aujourd'hui. Mais je pense que ça participe réellement de ce besoin d'ordre républicain qu'on a aujourd'hui. On voit bien que au-delà des agressions violentes, mortelles, qui aujourd'hui sont tout à fait condamnables et condamnées par le système judiciaire, on a un certain nombre d'incivilités qui, au fond, pourrissent la vie des Français et qui bénéficient en plus dans la perception des Français d'une forme d'impunité. Et ça, on doit y répondre beaucoup plus fermement. C'est tout l'enjeu de la politique judiciaire et policière menée par Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Et évidemment, une politique que je soutiens complètement.
Et que vous accompagnez, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué au transport. Merci d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Bonne journée.